Dans l'EM, l'émission dont le nom évoque entre autres le module lunaire, on se devait de marquer les 50 ans du premier homme sur la Lune. Et oui, c'est cette année, puisque c'est en 1969, le 21 juillet, que Neil Armstrong a fait un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Certains préparent même une commémoration d'envergure, comme l'association de reconstitution historique Artisan. Et sur leur base de Saint-Ségal, ils vont nous faire revivre l'événement. Ce sera bien sûr les 20 et 21 juillet. En attendant, l'un d'entre eux, Rémi Toularastel, vient nous faire patienter chaque semaine avec ses chroniques de la Terre à la Lune. Bien sûr, c'est une chronique du lundi, le jour de la Lune.
De la Terre à la Lune, épisode 2. Marcher sur la Lune, vous y avez déjà pensé? Descendre d'un vaisseau spatial et parcourir ce désert gris et poussiéreux? Laisser les traces de ses pas sur un sol vierge et contempler la Terre comme suspendue dans l'espace à 400 000 km de là? Ça y est, vous y êtes. Vous imaginez un astronaute gambadé avec en fond sonore Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, mais avant de s'y promener, il faut y aller. Dans le premier épisode, je vous ai raconté les spéculations des différents auteurs, qu'elles soient relativement crédibles ou alors totalement farfelues. Les bases scientifiques de l'exploration spatiale sont posées par Konstantin Tsiolkovsky. Né en 1857, il passe sa jeunesse dans une Russie en plein changement. Des lectures comme celle de Jules Verne, le revoilà, le pousseront à s'intéresser à l'exploration spatiale. Intérêt renforcé par sa rencontre avec le philosophe Nikolaï Fiodorov, pour qui le futur de l'humanité passe inévitablement par l'exploration du cosmos. Les travaux de Tsiolkovsky, au début du XXe siècle, auront une énorme influence sur les deux personnages dont je vais vous raconter le parcours. Sergueï Korolev, il est né en 1907. Après une enfance tumultueuse, révolution de 1917 oblige, il obtient son diplôme d'ingénieur aéromécanicien. Dans les années 30, il se tourne vers la conception des fusées. En 1938, en pleine période des purges staliniennes, il est envoyé dans le goulag de Kolyma, où il attrape le scorbut, et se fait fracasser la mâchoire au cours d'un interrogatoire. Il y reste 2 ans, pour être ensuite transféré dans une prison moins pénible. En 1944, Korolev est envoyé dans une Allemagne quasiment défaite pour récupérer tout ce qui peut l'être du programme de missiles V2 allemand. Le matériel, mais aussi les ingénieurs, qui n'ont d'autre choix que de partir en URSS. Cette démarche, les Américains la font aussi. C'est l'opération Paperclip. C'est à ce moment que nous faisons la connaissance du deuxième protagoniste, Werner von Braun. Il est né en 1912 dans une famille aristocratique. Influencé par les lectures de Hermann Oberth et Konstantin Tsiolkovsky, toujours lui, il se passionne pour les fusées. Il en fabrique même quelques-unes pendant ses loisirs. Tout juste diplômé en ingénierie mécanique, il est approché par l'armée allemande pour concevoir des missiles balistiques. Il commence alors la conception d'un missile profitant d'un vide juridique du traité de Versailles qui interdit la fabrication d'avions militaires. En 1942, il finalise la mise au point du missile Aggregat 4, plus connu sous le nom de V2. Alors qu'il sent que la défaite allemande est proche, il contacte les Américains pour leur proposer ses services. Il rejoint l'Amérique accompagné d'une centaine d'ingénieurs. Korolev et von Braun ont un point commun, que leur création ne serve qu'à une chose. L'exploration spatiale. Ils doivent néanmoins participer au programme militaire de leurs pays respectifs. Nous sommes en 1945 et la guerre froide succède à la Seconde Guerre mondiale. Le péril fasciste laisse sa place au péril communiste ou capitaliste, selon le point de vue. Au cours des années 50, la course à l'espace commence, et ce sont les Soviétiques qui prennent la tête. Avant l'arrivée de Von Braun et de son équipe, le programme des fusées américains est balbutiant. Il y avait bien un homme qui avait posé les bases de cette discipline aux États-Unis, Robert Goddard. Mais sans soutien officiel, ses travaux restent confidentiels. Le début du travail de Von Braun avec les Américains est confiné aux missiles balistiques. Le président Eisenhower ne veut pas d'Allemands dans le programme du premier satellite américain. À la suite d'une succession de lancements ratés, l'ingénieur allemand est rappelé. Grâce à lui, le lancement de l'équivalent US de Sputnik est un succès. Mais pour le moment, les Soviétiques mènent les débats. Premier satellite artificiel, premier homme dans l'espace. Les Américains sont juste derrière. Mais dans une telle compétition, il n'y a pas deuxième place. Les États-Unis, avec Von Braun, vont alors faire un gros travail de fond avec deux programmes qui leur permettent d'acquérir de solides bases en matière de voyage spatial. Le programme Mercury, pour connaître les effets de l'apesanteur sur le corps humain. Le programme Gemini, pour maîtriser les différentes techniques, telles que les manœuvres orbitales, nécessaires au programme suivant, Apollo. C'est le président Kennedy qui, le 25 mai 1961, annonce que les Américains poseront le pied sur la Lune. Avant la fin de la décennie. De leur côté, les Soviétiques peaufinent leurs fusées, mais se cantonnent à l'orbite terrestre. Même si les différents bureaux d'études ont dans leur carton des projets pour la Lune. Mais, au vu des avancées de la NASA en 1964 dans le programme Apollo, les Soviétiques décident officiellement de se lancer dans la course à la Lune. Korolev est en charge du projet. Il conçoit une fusée capable d'envoyer une équipe soviétique vers la Lune, mais pas sur la Lune. Le retard sur les Américains est trop grand. La mission soviétique se résumera à un survol de la Lune. Ils ne s'y poseraient pas, mais espèrent quand même être les premiers à s'y rendre. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Korolev meurt le 14 janvier 1966. Son successeur essaie bien de mener le projet lunaire, mais faute de temps, les soucis techniques mettent en échec le projet. Personne ne le sait à l'époque, mais les Américains ont déjà gagné la course à la Lune. Pour autant, les Américains ne sont pas sortis du sable. Les problèmes sont légion, les délais très serrés, et une remise en cause majeure les attend. Mais ça, c'est une autre histoire, que je vous raconterai lors du prochain épisode.